Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Lutte contre les crises environnementales et sociales. Les pays ouest-africains réfléchissent à des solutions durables pour mieux résister aux effets du changement climatique. Des experts réunis à Abidjan du 25 au 29 novembre prochain. Plus de 700 milliards de francs CFA prévus pour transformer le secteur de l'eau et de l'assainissement Côte d'Ivoire dans le cadre du projet PASEA. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, était à Korogo pour le lancement officiel de ce projet. Hors de nos frontières, mort hier au Burkina Faso d'un chef de canton après une manifestation contre l'insécurité. Et puis l'invité de la rédaction ce jour sera Maïzan Kofi Noël, le directeur général du Fonds de garantie automobile FGA, se prononcera sur le décret adopté en Conseil des ministres le mercredi 20 novembre dernier, sur ce décret qui réorganise les attributions et les modalités de financement du FGA. Maïzan Kofi Noël sera interrogé par Jean-Claude Mabéa. Depuis hier lundi 25 novembre se tient à Abidjan une réunion hybride d'experts et de ministres sur la stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à examiner et valider la stratégie régionale pour faire face aux défis futurs du développement durable en Afrique de l'Ouest. Mel Emmanuel pour le compte rendu.
Présenter le document complet de la stratégie de résilience, participer à des discussions d'experts et obtenir l'approbation officielle des ministres participants, tels sont les points constitutifs de l'objectif général de cette réunion. Elle s'axe sur quatre piliers essentiels, ici présentés par Parfait Kouadio, représentant du ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, donc, c'est sur la gouvernance, le deuxième, l'économie, le troisième, la société et le dernier pilier, l'environnement. Ces piliers interconnectés doivent guider notre action et inspirer nos politiques dans notre région.
La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire est revenue sur l'importance de cette réunion quant aux résultats attendus. Fanta Cissé.
Cette réunion marque une étape importante dans des efforts collectifs visant à renforcer la région dans un esprit de stabilité, de paix et de développement régionaux.
Poursuivant, elle a réitéré sa confiance aux participants quant à la mission qui leur est confiée.
Nous avons donc une mission très critique devant nous. Mais je suis convaincue que vous êtes tous à la hauteur de la tâche.
Ouverte depuis le lundi 25 novembre 2024, cette réunion des experts régionaux prendra fin le 29 novembre prochain. Il est à noter qu'elle est initiée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et le soutien financier des gouvernements de la Suède et du Danemark.
Et puis l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale renforce les capacités de ses commissions régionales, ceci pour une meilleure contribution à une paix durable en Côte d'Ivoire. Après le Bounkani, l'institution était récemment dans la Bagoué et le Folon. Eugène Billet, qui en est le directeur de la communication et des relations extérieures, nous donne des détails sur cette initiative.
Cela fait quelques années que plusieurs de nos commissions ont été mises en place. Et là, nous faisons le tout à travers donc ces ateliers de renforcement pour les rendre au top, pour leur permettre donc d'être efficaces dans l'animation de leurs commissions régionales, mais surtout dans la collecte, la remontée et le traitement des informations pouvant permettre donc une paix durable dans nos différentes régions. La Bagoué et le Folon bénéficient donc de cette formation après la commission régionale donc du Bounkani. Et là, il faut dire que cet atelier de renforcement de capacité a été permis par le PNUD, notre partenaire qui nous accompagne donc sur ce projet-là. Les défis en matière de renforcement de la cohésion sociale et de renforcement de la solidarité sont énormes. Il nous faut donc travailler d'arrache-pied et donc mieux outiller les membres de la commission est donc pour nous un impératif. C'est pourquoi nous menons donc cette activité avec l'autorisation de notre ministre de tutelle, la ministre Madame Miss Belmont Dogo, afin que ces commissions soient de plus en plus dynamiques pour jouer pleinement le rôle que leur mandat leur assigne.
Eugène Billet, le directeur de la communication et des relations extérieures de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour contribuer à une élection apaisée en 2025, plusieurs leaders de communautés et acteurs de la société civile ont participé à un atelier de sensibilisation. Cette activité du ministère de la Cohésion nationale de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est tenue du 21 au 23 novembre à Daoukro. François Kras nous en parle.
Pourquoi choisir Daoukro pour cet atelier? Kwadio Marie Koné, directrice générale de la cohésion nationale, représentant la ministre de tutelle, Miss Belmont Dogo, explique.
Daoukro a toujours été une cité où on régnait la paix et la cohésion sociale. Mais cette quiétude a été perturbée en 2020 lors des élections présidentielles. Nous sommes à 11 mois des élections présidentielles de 2025. Le pari d'éloigner le spectre de la résurgence des conflits exige que des efforts inlassables soient déployés pour que la société retrouve une vie sociale et politique normale.
Des modules portant respectivement sur les causes majeures de la crise électorale dernière ont fait l'objet d'enseignements. Professeur Bamba Abdoulaye, formateur, insiste sur la rumeur.
Pour reconnaître une rumeur, le premier indicateur, c'est que généralement, on n'indique pas la source. On dira toujours, on dit, il paraît que. Les conséquences sont à plusieurs niveaux. La rumeur peut être source de déstabilité politique et sociale.
Des recommandations ont été faites au cours de l'atelier, dont la mise à jour des alliances interethniques. Le préfet de l'IFO, Dike Raymond Claude, engage donc les participants à relayer dans leurs différentes communautés les acquis de la formation reçue.
Pour approfondir les sillons de la paix sociale et de la cohésion entre toutes les communautés vivant de la région de l'IFO.
Au nombre de 80, les acteurs et leaders sociaux ont reçu chacun un diplôme de participation. François Kras, Daoukro, Radio de la Paix.
À Korogo, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé le vendredi 22 novembre à la cérémonie officielle de lancement du projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement PASEA. Sur les grandes lignes de ce projet, retrouvons le ministre Boaké Fofana au micro de Tommy Corona.
En Côte d'Ivoire, malgré des efforts considérables, de nombreuses localités font encore face à des difficultés d'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adaptés. Ces défis sont accentués par la pression démographique, les impacts du changement climatique et la nécessité d'assurer une gestion durable de nos ressources en eau. Conscient de ces enjeux, le gouvernement, sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, a fait de l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement un axe stratégique de sa politique de développement. C'est dans ce cadre que le programme d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement a été conçu, avec un budget global, comme l'a rappelé Madame la Directrice des Opérations, de 1,2 milliard de dollars américains, soit environ plus de 700 milliards de francs CFA, dont une partie importante, soit 825 millions de dollars, donc plus de 500 milliards de francs CFA, est financée par la Banque mondiale elle-même. Le PASEA vise donc à transformer profondément le secteur de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire.
À l'instant, vous écoutiez Boaké Fofana, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, un incubateur pour transformer les sous-produits du cacao a été construit à Gagnoua au profit de l'ANADER, Agence Nationale d'Appui au Développement Rural. Le comité de suivi de cet incubateur l'a présenté le mercredi 20 novembre dernier, témoin pour Radio de la Paix, Abel César Cassin.
En ce qui concerne les briquettes combustibles envisagées pour remplacer à terme le charbon de bois, source de déboisement, le chef du centre de formation Anader Gagnoua, où l'incubateur est construit, Kwaku Kwadio Leonard, révèle certaines dispositions prises.
C'est de prélever tout ce qu'il y a comme intrant chez le producteur, les transformer, prendre un peu pour la maintenance de nos différents incubateurs, et puis retourner à la site au producteur les produits déjà fabriqués, pour que, même s'ils n'arrivent pas à les vendre, qu'ils utilisent comme bois de chaux, ça permet de préserver l'environnement.
Et rassure cependant les producteurs de charbon.
Les vendeurs de charbon, en remplacement progressif du bois de charbon, on n'enlève pas leur travail, mais c'est la matière qui diffère. Il ne faudrait pas qu'ils soient concurrencés, il faudrait qu'ils soient dans le maillon, sinon c'est un blocage.
Le président du conseil d'administration du conseil du café cacao, Siaka Koulibaly, dont la structure s'intéresse à ce projet, fait une proposition.
Des briquettes combustibles, c'est encore une opportunité à des jeunes, pour les jeunes à créer des kiosques et puis faire la diffusion nous-mêmes, de façon à ce que le prix de vente soit compétitif vis-à-vis des autres produits qui sont sur le marché.
Les membres du comité de suivi de l'incubateur ont présenté par la suite les lignes de production du champignon, des briquettes, du vinaigre aux partenaires techniques de ce projet financé par la coopération allemande dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Quittons Gagnoa pour San Pedro, où les acteurs du parc national de Taï étaient à l'heure du bilan d'opération 2024 et de l'élaboration du plan d'opération 2025. Un atelier initié par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, le jeudi 21 novembre dernier, sur lequel revient Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassin Sandra.
Le parc national de Taï, la plus grande forêt tropicale primaire, est sous protection de la zone ouest africaine avec un bilan du plan d'opération de 2024 estimé à 83% et dans un bon état de conservation. L'élaboration du plan d'opération de 2025 enregistre des défis selon le colonel Amon Coutois-Benoît, directeur technique de l'EIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Les défis pour 2025, c'est de mettre en œuvre le projet PIF qui doit mettre en place un certain nombre d'activités génératrices de revenus et d'infrastructures sociales de base au profit des communautés, mais aussi implémenter le projet de paiement pour la réduction des émissions autour du parc national de Taï qui incite les communautés à prendre une part active dans la lutte contre le changement climatique à travers la conservation de forêts ou des activités de reboisement.
Le parc national de Taï, bien conservé, est confronté cependant à des menaces et les conseils régionaux ont un rôle à jouer face à ces menaces. Dr Ouattara Diamanantiki, directeur de la planification au conseil régional du Cavali.
Les menaces portent essentiellement sur l'orpaillage, le braconnage, mais il faut continuer à travailler avec les communautés, à leur expliquer les bienfaits de ce parc pour leurs activités économiques. Aujourd'hui, quand nous parlons de la boucle de cacao qui s'est déplacée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est bien grâce au parc national de Taï.
Pouba Timothée, préfet de Méagui, les populations prennent conscience de l'importance du parc de Taï.
De plus en plus, les populations sont réceptives à notre appel et nous aident à préserver de façon durable le parc national de Taï.
Comme pour dire que chacun à son niveau peut contribuer à la préservation du parc des Taï. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Le sommet de l'élevage d'Abidjan CELAB a refermé ses portes le dimanche 24 novembre après 3 jours de travaux. À la cérémonie de clôture, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiémoko Touré, a souligné l'importance de cette initiative qui permet, selon lui, de partager et faire comprendre la vision de l'État. Le point avec Linda Ballier.
Cette 3e édition était l'opportunité d'échanger entre les acteurs du secteur afin de poser les problèmes et trouver des solutions au travers de partage d'expériences. Plusieurs accords de principe et partenariats ont été conclus et les recommandations qui en sont sorties sont formulées ici par Anta Mariam, commissaire générale du sommet.
Les principales résolutions issues des travaux sont les suivantes. Renforcer les politiques publiques qui stimulent l'innovation et l'inclusion des populations défavorisées, femmes, jeunes, enfants et handicapés, surtout toute la chaîne de valeur. Augmenter la production animale grâce à l'adoption de techniques modernes et efficientes. Renforcer les capacités des éleveurs locaux leur permettant de devenir plus indépendants, plus résilients. Accentuer avec une augmentation les investissements dans le secteur de l'élevage. Et enfin, diffuser les meilleures pratiques d'élevage à travers des formations, des ateliers et des démonstrations sur le terrain.
Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce genre d'initiatives sont essentielles pour implémenter la vision gouvernementale. Sidi Thiémoko Touré.
Pendant 3 jours, ils ont travaillé, ils ont échangé, se sont formés. L'Institut, ils ont décidé de grandir ensemble. Ces espaces sont nécessaires, fortement nécessaires, pour des institutionnels tels que nous, à l'effet de pouvoir implémenter, créer le cadre d'interaction, mais aussi implémenter notre vision, ce que nous attendons du secteur, pour que les acteurs, quand ils partent, ils comprennent la direction que l'État prend, mais surtout qu'ils s'investissent pour l'atteinte de cet objectif.
Notons que le cap est déjà mis sur 2026 pour la 4e édition du CELAB Livestock Show, avec une édition intermédiaire en 2025, axée sur l'halieutique.
Hors de nos frontières au Burkina Faso, les populations ont manifesté hier lundi à Solenzo, localité au nord-ouest du pays. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, les populations ont décidé de donner de la voix pour réclamer plus d'action de la part des forces de défense et de sécurité, apprend l'AFP, malgré les assurances des autorités sur des mesures en cours pour stabiliser la situation. La manifestation s'est tenue et s'est soldée par des scènes de violence, entraînant la mort du chef du canton, toujours selon l'AFP. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui ce jour est Maïzan Kofi Noël, le directeur général du Fonds de garantie automobile FGA, se prononce sur le décret adopté en Conseil des ministres le mercredi 20 novembre dernier, sur ce décret qui réorganise les attributions et les modalités de financement du FGA, ainsi que les procédures d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation couvertes par le fonds. Maïzan Kofi Noël est interrogé par Jean-Claude Mabéa.
Monsieur le directeur général du Fonds de garantie automobile Maïzan Kofi Noël, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que c'est que le Fonds de garantie automobile?
Le Fonds de garantie automobile, le FGA, est une entreprise qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire de concert avec l'ensemble des compagnies d'assurance qui pratiquent la branche automobile. Il s'agit d'un fonds qui est l'émanation du Code CIMA. Donc, c'est un fonds qu'on pourrait trouver dans l'ensemble des pays du Code CIMA. Donc, on peut en trouver au Sénégal, on peut en trouver au Bénin, on peut en trouver au Gabon, on peut en trouver au Cameroun. C'est un fonds qui a un caractère paritaire et l'objectif de ce fonds, c'est que le législateur communautaire a estimé que le champ d'action d'intervention du FGA n'était pas couvert par les compagnies d'assurance classiques. Il s'agit des cas d'accident pour lesquels, quand l'usager a pris la fuite, vous convenez avec moi que la victime n'a aucune couverture.
Tout à fait.
Pareil pour un accidenté de la voie publique qui est victime d'accident de la voie publique d'une voiture qui n'est pas assurée. Pas de moment, la voiture n'est pas assurée, il n'y a pas de couverture pour la victime. Donc, ces États-là ont estimé qu'il était important que ce vide-là soit couvert par le Fonds de garantie automobile. Donc, en la matière, aujourd'hui, avant l'élargissement du champ d'action du Fonds de garantie automobile, les victimes qui sont éligibles au Fonds de garantie automobile, ce sont ces deux cas que j'ai indiqués. Victime d'accident de voie publique, quand il y a un délit de fuite, donc l'usager a pris la fuite, abandonnant la victime à son sort, ou bien défaut d'assurance, la victime, bien sûr, toujours abandonnée à son sort, parce que l'auteur qui a une voiture non assurée, donc pas de couverture, ne peut pas prendre en charge la victime. Donc voilà le fondement du fonds qui a existé mais depuis jusqu'à ce que mercredi passé, l'État, dans le cadre de la réforme, demande l'élargissement du champ d'action du FGA.
Qui peut bénéficier de ce fonds et quelles sont les conditions?
Bon, depuis le mercredi 20 novembre passé, avec l'élargissement du champ d'action du fonds de garantie, je pense que ça c'est important à savoir. Il s'agit maintenant pour le fonds de garantie de prendre en charge toutes les victimes. Je vais caricaturer, jusqu'à la prise du décret, sur une échelle de 100 victimes, le fonds de garantie automobile prenait 20% des victimes d'accidents de la voie publique en Côte d'Ivoire. Donc, dans les 80%, il y a 70% qui sont pris en charge par les compagnies d'assurance classiques, donc le gros du lot. 5% qui sont pris en charge par les voitures de l'État, parce que l'État est son propre assureur. Donc, quand il y a une voiture de l'État impliquée dans un accident de voie publique, c'est l'agent judiciaire de l'État qui prend en charge la victime. Et puis, le dernier lot, ce sont les voitures qui viennent du Ghana, du Mali, du Togo, qui sont dans le portefeuille de la carte d'une CDAO. Quand ce type de voiture-là est impliqué dans un accident de la voie publique, celui qui indemnise, c'est la carte d'une CDAO. Ils sont représentés de l'ensemble des États de la CDAO, mais ils ont leur représentation ici. Donc, si une échelle de 100, le fonds de garantie prend 20%, les compagnies d'assurance prennent 70%, l'État 5% et la CAF CDAO. Depuis la réforme, l'État a demandé que le fonds de garantie étende son action sur l'ensemble des 80%. On les prend en charge au plan systématique parce que quelle est la volonté de l'État? L'État veut que ses concitoyens soient couverts systématiquement parce que quand vous allez dans un centre de santé et qu'il y a une victime d'accident de la voie publique qui arrive, l'État, même s'il s'agit d'une victime d'accident de la voie publique d'une compagnie d'assurance, étant entendu que les compagnies d'assurance ne sont pas systématiquement dans les CHU, dans les CHR, je voudrais rappeler que le fonds de garantie automobile est installé dans l'ensemble des CHU. Nous sommes en train de nous installer dans l'ensemble des CHR. Donc nous avions une proximité et une réactivité d'action au regard de notre présente dans les CHU et dans les CHR. Donc l'État a estimé que avant que la compagnie d'assurance qui a engagé sa garantie pour un accident de la voie publique de l'une de ses victimes, le fonds de garantie, au regard de sa présence, prend en charge la victime pour la sauver de la zone dangereuse.
Et comment se fait cette prise en charge, monsieur le directeur général?
Quand la victime arrive et qu'on l'identifie, au regard de notre présence là, nous donnons instruction au centre de santé de la prendre en charge, puisque bon, notre signature est crédible, parce qu'on a une convention avec tout ces CHU. Dans un CHU, dans un CHE où nous sommes présents, nous avions une collaboration, une convention avec le CHU. Nous avions une convention avec la pharmacie à l'intérieur du CHU. Nous avions une convention avec la banque de sang dans le CHU. Nous avions une convention avec les vendeurs de matériel d'osteosynthèse tout autour du CHU. Nous avions même une convention avec les pharmacies qui sont autour pour ne pas qu'il y ait une rupture en ce qui concerne le besoin, soit en médicaments, soit en sang, soit en matériel. Et au regard de cette convention, quand il s'agit d'une victime éligible au fonds de garantie automobile, ils savent que nous allons payer. Ils prennent en charge systématiquement la victime et puis après, on paye ce qu'il y a à payer.
Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour le suivi de ces accidentés qui sont pris en charge par le fonds?
Mais bien sûr, puisque le mécanisme que j'ai expliqué est un mécanisme qui fonctionne de manière ininterrompue. Quand vous parlez du mécanisme du suivi, j'imagine que quand une victime rentre, comment on la suit jusqu'à ce qu'elle soit consolidée?
Tout à fait.
Quand elle rentre en hospitalisation, nous avions, comme j'ai indiqué, des agents présents là-bas. Donc, à partir du moment où c'est une victime du FGA, les médecins traitants savent que c'est notre victime. Les médicaments, c'est nous qui les payons. Quand il y a une facture, quand il y a un bon des médicaments, c'est nous qui payons puisque nous sommes présents là-bas. Quand on a besoin de sang, le médecin qui suit nous dit qu'il y a un besoin de sang, c'est nous qui payons. S'il y a une opération, si ça nécessite un scanner, c'est nous qui payons le scanner. Si ça nécessite une opération, c'est nous qui payons tout le matériel de osteosynthèse jusqu'à ce que la victime soit consolidée, jusqu'à guérison.
Et là, les parents n'ont aucun sou à débourser, c'est ça?
Rien à débourser. Ils ne payent pas un centime.
Monsieur le directeur général, c'est des informations que les Ivoiriens n'ont pas forcément. Qu'est-ce que vous faites pour que les populations aient ces informations-là au jour le jour pour pouvoir bénéficier du fonds?
Mais je pense que nous sommes en train d'élaborer un programme de communication d'une certaine envergure, surtout au regard du décret qui vient d'être pris, pour faire connaître l'action sociale du gouvernement, parce que c'est important.
Monsieur le directeur général du fonds de garantie automobile, Maïzan Kofi Noël, je vous remercie.
Merci, monsieur.
Maïzan Kofi Noël, aujourd'hui invité de la rédaction, était avec Jean-Claude Mabéa. C'est ce qui marque la fin de ce journal, dont voici le rappel des titres. Lutte contre les crises environnementales et sociales. Les pays ouest-africains réfléchissent à des solutions durables pour mieux résister aux effets du changement climatique. Des experts réunis à Abidjan du 25 au 29 novembre prochain. Et puis hors de nos frontières, mort hier au Burkina Faso d'un chef de canton après une manifestation contre l'insécurité. Merci de votre fidélité. À 15h, un flash d'information. Mais avant, la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. Pour coller à l'actualité, commençons notre examen de vos journaux de ce jour.